Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette rencontre avec Gérard Mauger autour du livre Repères pour résister à l'idéologie dominante, sorti l'année dernière aux éditions du Crocan dans la collection Savoir Agir. Gérard Mauger, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes sociologue. Je vais faire un bref récapitulatif pour vous présenter brièvement. Parmi les différents éléments du CV que vous m'avez envoyé. Alors, vous êtes chercheur au CNRS, où vous êtes entré en 1969 en tant qu'attaché de recherche, plus précisément chercheur au Centre d'études sociologiques, puis au Centre de sociologie de l'innovation. Et depuis 2009, vous êtes directeur de recherche émérite et chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Vous vous intéressez tout particulièrement à la sociologie des âges de la vie et des générations, en particulier de la jeunesse. Sociologie de la déviance et de la délinquance, sociologie des classes populaires, sociologie des pratiques culturelles et artistiques, et notamment la lecture, si j'ai bien compris, qui est votre dernier sujet de recherche, et enfin sociologie des intellectuels. Vous êtes aussi membre des comités scientifiques de différentes revues, comme Actes de la recherche en sciences sociales, politiques, sociologie du travail, recherche et prévision, société et jeunesse en difficulté, société et représentation. Vous êtes co-directeur de la collection Sociologiquement aux éditions Belin. Membre des comités éditoriaux des collections Champs sociaux et Savoir agir aux éditions du Crocan. Vous avez aussi écrit et dirigé de nombreux ouvrages de sociologie, notamment en, que je ne dise pas de bêtises, Sociologie de la délinquance juvénile à la découverte en 2009, Les meutes de novembre 2005, une révolte proto-politique, édité au Crocan en 2006. Ce soir, vous venez nous présenter Repères pour résister à l'idéologie dominante, qui est un ensemble de textes que vous avez déjà prépublié dans la revue Savoir Agir entre 2007 et 2012. Savoir Agir, qui est aussi le nom de l'association qui a pris la suite du collectif Raison d'Agir, qui avait été créé autour de Pierre Bourdieu après les mouvements sociaux de la fin des années 95, de la fin de l'année 1995. Et ce livre esquisse une réponse en acte à une question simple en apparence, et qui n'est pas pourtant, comment intervenir sociologiquement en politique? Et plus précisément, vous proposez quelques armes pour résister à l'idéologie dominante et contribuer à l'émergence d'une gauche, de gauche, dans le champ politique. C'est un ouvrage donc, qui a été composé en deux parties. Dans la première, donc, qui est un point de vue sociologique et politique, en trois sous-parties, vous analysez ce que vous appelez la gauche de gauche, enfin ce que vous et d'autres personnes appelez la gauche de gauche. Puis vous parlez des positions qui se réclament de Bourdieu dans le champ de la sociologie actuellement pour ébaucher un bilan de différentes interventions sociologiques à la télévision ou à la radio que vous avez fait autour de votre précédent ouvrage, Sociologie de la délinquance. La deuxième partie, quant à elle, est consacrée à une critique de l'idéologie dominante en trois sous-parties, axée sur les classes populaires, sur les notions clés de la vulgate néolibérale et enfin sur le champ politique. Donc nous allons voir ensemble ce soir, pendant cette heure qui nous est accordée, comment la sociologie peut intervenir en politique. Mais avant tout, Gérard Mauger, qu'est-ce que l'idéologie dominante et comment la définiriez-vous en 2014?
Oui, il est gentil parce qu'il m'avait prévenu qu'il me poserait cette question très, très, très embarrassante. Alors, c'est embêtant de devoir commencer comme ça, puisque c'est le titre et je ne suis même pas fichu d'expliciter plus avant le titre, enfin sans faire un détour un peu long. Alors, peut-être je vais le faire quand même. Alors, c'était pas, enfin, je me suis longtemps gratté la tête pour trouver un titre pour ce recueil de textes. Voilà. Alors, je voulais que ce soit descriptif et intelligible, voilà, si possible. Mais le fait est que si j'avais été libre de mon choix, j'aurais pas pris celui-là. Voilà. J'étais libre de mon choix, mais j'aurais pas pris celui-là. J'aurais employé un mot savant. Alors voilà, j'aurais parlé de doxa, voilà, repère pour résister à la doxa. Mais alors, personne là, c'était être sûr d'être compris de personne. Donc voilà, j'ai renoncé. Alors je vais expliquer pourquoi doxa, c'était pas pour faire le malin, je crois pas. Mais je crois que c'était plus précis pour désigner ce dont il s'agit. Quand on dit idéologie, on pense à un corpus cohérent, un énoncé cohérent, un discours suivi, une espèce de doctrine constituée. Bon, je crois que c'est le genre de choses auxquelles on pense, ce à quoi on pense quand on parle, par exemple, de la fin des idéologies. On dit ça couramment aujourd'hui, comme s'il n'y en avait plus. Quoi. Bon, voilà. Bon, peut-être que ce n'est pas tout à fait idiot au sens de corpus constitué avec des adeptes, bon, des croyants, etc. Voilà. Alors, si on dit, si on croit que c'est la fin, pourquoi, pourquoi parler de repères pour résister à un machin qui n'existe plus? Bon, voilà, c'est un peu malvenu. Bon, je l'ai employé quand même parce que faute de mieux, j'ai pas trouvé un équivalent de doxa. Voilà. Alors doxa, ça veut dire quoi? Doxa, je crois que c'est, alors c'est un mot grec, voilà, qui désigne plus précisément, je crois, une forme, on va dire, un ensemble de propositions qu'on tient pour évidentes, c'est-à-dire sur lesquelles on ne s'interroge pas, on considère que ça va de soi, ou des schèmes de pensée, des manières de penser, voilà, qui sont tenues pour évidentes, tout ça étant dans une forme de cohérence très approximative, mais constitué tout ce que les Anglais disent « taken for granted ». Voilà, ça va de soi. Voilà. C'est tenu comme des propositions très, très génériques, des manières de faire, des manières de penser qui sont tenues pour aller de soi. Voilà. Donc, qui, d'une certaine façon, sont beaucoup plus proches, pourrait-on dire, d'une forme d'inconscience que de conscience. Voilà, je dirais, c'est ce qui guide la conscience, mais qui est préconscient, qui est antérieur à la conscience, en quelque sorte. Et je crois que c'est plutôt de ça dont il s'agit, en tout cas, dans ce livre. C'est un ensemble voilà, de considérations qu'on considère comme évidentes, voilà, ou que la plupart des gens considèrent comme évidentes. Et... Donc, résister à l'idéologie dominante, c'est montrer que voilà, l'idée, c'est montrer que c'est pas si évident que ça. Voilà, au moins peut-être, je me suis efforcé au fil du temps, voilà, dans cette revue Savoir Agir, dans une rubrique que je tiens depuis maintenant quelques années, de prendre tel ou tel thème qui me semble avoir une actualité, une forme d'actualité, et qui, d'une certaine façon, en tout cas d'un point de vue de sociologue. Pose des questions qu'on ne pose pas, voilà, hein, pose des questions qu'on oublie généralement de poser. Voilà. Donc c'est en ça peut-être qu'il s'agit d'interventions proprement sociologiques, au sens où c'est un point de vue de sociologue, voilà, sur des considérations qu'on entend à la télévision, à la radio, voilà, et qu'on n'interroge pas, voilà, qui ne sont pas interrogées, donc voilà, j'essayais d'interroger. Voilà, donc voilà, je l'aurais plutôt appelé ouais, « Repère pour résister à la doxa », ça aurait été plus précis, mais vous voyez dans quelle science, parce que finalement, je ne vise pas, bon, telle idéologie plus précisément, quoi. Voilà. Alors pourquoi dominante, si on peut aussi demander, pas seulement idéologie, mais dominante. Alors, peut-être c'est intéressant là aussi d'avoir, enfin il me semble, d'avoir un point de vue de sociologue sur dominant. Dominant, ça veut dire que cette idéologie ou cette doxa, si vous me l'accordez, cette doxa, elle est un enjeu de lutte. Voilà, elle est un enjeu de lutte et voilà, il y a ceux qui dominent et puis il y a des dominants et des dominés. Quoi. Bon, mais dans toute espèce de lutte, il y a des dominants et des dominés, sinon il n'y aura pas de lutte. Voilà. Bon, c'est comme ça. Donc cette lutte, je crois que dans l'état actuel d'une société comme la société française d'aujourd'hui, elle met aux prises différents types de producteurs symboliques, des producteurs de biens symboliques, des producteurs intellectuels, si on veut faire plus simple, qui sont pour l'essentiel les politiques, voilà, les politiques qui produisent du discours sur le monde social, les médias, les journalistes, bien sûr, qui occupent une place tout à fait essentielle dans ce monde-là, mais aussi, bien sûr, nous autres, sociologues, ou de façon plus vaste, le champ des sciences sociales, qui produisons aussi du discours sur le monde social. Et puis on pourrait rallonger la liste, hein. On pourrait dire il y a aussi le champ juridique, voilà, l'univers des juristes, il produit aussi du discours sur le monde social, les religieux continuent d'en produire aussi, enfin bref, le champ artistique à sa manière produit lui aussi du discours sur le monde social. Donc tout ce monde-là en fait se trouve objectivement en concurrence pour produire ce discours sur le monde social, une vision du monde social, et si possible, une vision dominante. Tout le monde se bat aussi pour essayer d'accéder au monopole de la vision dominante légitime sur le monde social. Bon, alors, en disant ça, je me rends compte que voilà, c'est peut-être une façon d'expliciter mieux doxa, vous voyez bien, parce que si c'est un produit de lutte très très divers, d'acteurs très très divers, alors forcément, bon, l'espèce de résultat est un espèce de discours un peu confus, un peu compliqué, en même temps qu'il y a une forme de cohérence, et dont la cohérence est à trouver, je crois, dans ces luttes interne entre ces différents univers de production, de vision du monde social, étant entendu que c'est plus compliqué encore que ce que je viens de dire, parce qu'on ne peut pas faire comme si chacun de ces champs était homogène. Et ce champ, chacun de ces champs est aussi un lieu de lutte. Le champ politique, c'est un, voilà, c'est un lieu où il y a des hommes politiques qui se battent pour avoir la position dominante en politique. Et c'est pareil pour les médias, et c'est pareil pour les sociologues, c'est pareil pour tout le monde. Bon, voilà. Donc c'est des univers en lutte, qui sont en lutte entre eux, mais qui sont aussi objets de lutte interne. Donc tout ça produit une joyeuse cacophonie, voilà, et qui ressemble à la doxa. Quoi. Bon, voilà, je pense que la doxa, c'est aussi cette espèce de produit qu'on entend, qui fait du bruit comme ça, du buzz, comme on dit aujourd'hui, voilà, dans les oreilles. Et c'est ça que, voilà, que je vise. Voilà. C'est ça qui était l'objet de ce livre. Voilà. Bon, je me rends compte que c'est très insatisfaisant, sans doute, ce que je dis là, parce que voilà, on dit, il dit, oh, c'est vachement confus, quoi. Bon, oui, alors, c'est vrai. Je tiens un discours confus sur un discours confus. Bon. Voilà, tant pis. Alors, bon, on peut quand même essayer de préciser un tout petit peu, quoi. Bon, un tout petit peu les choses. J'ai le sentiment, mais j'ai seulement le sentiment, parce que j'ai pas fait d'enquête personnellement sur ces questions-là aujourd'hui, que il me semble, quand même, si on doit parler de domination, que le champ économique, voilà, un autre champ, un autre univers, sous-univers spécialisé dans le monde social, est devenu de plus en plus un univers dominant. Voilà, j'ai le sentiment de ça. Je crois qu'on pourrait le montrer, en fait, hein, que le champ économique a pris une importance décisive par rapport à un ascendant, en quelque sorte, sur le champ politique, par exemple. Comment, au fond, bon, voilà, les politiques ressemblent de plus en plus à des, je sais pas comment dire, des VRP du champ économique. Quoi. Bon, ils vendent des choses. Voilà. Donc, un ascendant, je crois, considérable du champ économique. Sur le champ politique, ça me semble assez évident. Hein. Sur le champ médiatique aussi, vous voyez, je sais pas, moi, je suis pas tout jeune, je suis un vieux lecteur du Monde, voilà, depuis très très longtemps. Autrefois, il n'y avait pas un spécial économie qui a tous les jours, maintenant. Hein. Il est apparu au début de façon hebdomadaire, puis maintenant, il y en a un tous les jours, et puis d'ailleurs, il grossit, il prend de plus en plus de place, jusqu'à envahir quasiment tout l'espace. Ouais, c'est des indicateurs et objectivables de ce que j'appelle domination. Bah, domination, c'est-à-dire, voilà, dans le champ médiatique, ils occupent une place, le champ économique et les considérations qui en dérivent occupent une place de plus en plus forte. Voilà. Alors, encore juste un mot sur le titre, pour dire que c'est quoi, bon, qu'est-ce qui est important, quoi, dans l'idéologie, quoi. Bon, j'ai dit, c'est pas un discours cohérent, etc. Bon, je maintiens, je crois que c'est pas un discours cohérent, et un peu pour les raisons que je viens d'essayer de dire, mais pour autant, bon, on peut, je crois, dire qu'est-ce qui est en jeu. Alors, je crois qu'il y a au moins trois choses, voilà, qui sont en jeu. Il y a imposer une vision du monde. Voilà, j'ai dit tout à l'heure, enfin, tous ces gens-là produisent des visions du monde, des sociologues aussi. Hein. Bon, donc voilà, c'est imposer, tenter d'imposer une manière de voir le monde. C'est aussi une entreprise qui s'accompagne d'une, comment dire, de ce qu'on pourrait appeler une naturalisation de l'ordre social, c'est-à-dire l'idée que, voilà, cet ordre social est un ordre naturel et comme tel indépassable, s'il est naturel. Bon, voilà, c'est comme ça, ça ne saurait être autrement. Enfin, c'est, peut-être Margaret Thatcher avait exprimé ça très fortement en disant, oui, c'est le TINA, quoi, c'est une alternative. Bon. Voilà, c'est comme ça, parce que ça ne saurait être autrement. Bon, donc je pense que cette entreprise de naturalisation, voilà, d'éternisation de l'ordre social, qui pourtant, bon, pour un sociologue, on ne peut pas accepter ça, quoi. Bon, un sociologue, il sait d'ailleurs, bon, parce qu'il fait un peu d'histoire en général, que voilà, l'ordre social est ce qu'il aime, enfin, il a été autre chose autrement à d'autres époques, donc bon. Voilà, dire que cet ordre-là est naturel, bon, c'est quelque chose d'un petit peu ridicule. Bon, en tout cas, c'est antisociologique par excellence. Donc, c'est au fond, tout ordre social est historique. Donc, on ne peut que s'opposer à cette vision naturalisante de l'ordre social. Non, mais enfin, vous voyez, c'est un thème très très banal aujourd'hui. Hein. Je sais pas, Fukuyama, la fin de l'histoire. Quoi. Bon, voilà, et puis l'histoire, c'est fini. Quoi. Bon, on peut arrêter, aller se coucher. Voilà, ça restera éternellement ce que c'est aujourd'hui. Donc, une espèce d'éternisation, de naturalisation de l'ordre des choses tel qu'il est. Voilà. Qui, je crois, impose aussi quelque chose comme une espèce de, à chacun, une vision de ce que c'est que de se réussir pleinement. Ouais, bon, voilà. Et donc, il impose à chacun, je crois, une vision qui consiste à faire de chacun d'entre nous un espèce d'entrepreneur de lui-même, vous voyez, une espèce de vision un peu, comment dire, sartrienne. Sartre, c'était ça, hein, peut-être de jeu triomphant, comme ça, décidant de tout, bon, etc. Mais révisé à la lumière du management moderne, c'est moins, comment dire, métaphysique que Sartre, voilà, c'est plus ras de bitume, quoi, mais c'est l'idée, voilà, de se prendre en main, de se réaliser, de se réussir, d'être bien sûr en concurrence avec tous les autres, bon, voilà, et d'être, voilà, d'essayer de se réaliser au mieux dans un univers concurrentiel, libre et non faussé, comme on dit aujourd'hui, voilà, avec l'idée aussi que bien sûr la concurrence est naturelle, voilà, que c'est un ordre naturel, etc. Voilà. Grosso modo, ce qu'est en jeu de façon très générale, hein, sur voilà, ce que je vise dans ce livre, mais bon, dans ce livre, c'est un recueil d'interventions sur des thèmes particuliers qui m'ont semblé, enfin, qui ont au moins eu le mérite de retenir mon attention. J'espère pas seulement la mienne. Bon. Et où, voilà, je vis cette espèce de blablabla, ce discours, comme ça, hein, voilà, plus que une idéologie à proprement parler, même si ça a des aspects d'une idéologie, c'est-à-dire que c'est pas totalement impropre. Il y a idéologie, voilà, il y a quand même quelques enjeux relativement identifiables que j'ai essayé d'identifier, en tout cas pas de façon systématique ni exhaustive, mais bon, qui me semblent être des enjeux importants. Quoi. Voilà.
Alors il y a un des premiers enjeux, c'est les classes populaires qui prend quand même une part assez importante de la deuxième partie de l'ouvrage, et vous expliquez où sont passés les prolétaires. Avant, c'était simple. Avant, quand le monde était beaucoup plus simple, que les prolétaires, c'était des ouvriers dans une usine avec une casquette et une gitane sur l'oreille. Et il semblerait que cette image d'Épinal de l'ouvrier et du prolétaire n'existe plus médiatiquement. Or, il y a quand même encore des ouvriers en France. Il y a quand même une classe populaire qui existe encore.
Oui. Alors, c'est vrai que c'est bon, j'ai consacré pas mal d'articles, alors à la fois parce que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années, j'y travaille encore d'ailleurs, mais autrement, mais enfin bref, c'est un des thèmes qui m'intéresse, puis aussi parce que je crois que c'est un thème, voilà, c'est un thème important par rapport à cette histoire de la vision du monde, voilà, dominante aujourd'hui. Tout se passe comme si, enfin il m'est apparu, tout se passait comme si, depuis la fin des années 70, début des années 80, grosso modo, il y avait une espèce d'éclipse total de classe populaire depuis maintenant 40 ans. Quoi. Bon. Ce qui est un peu, voilà, c'est interpellant, c'est un peu étrange quand on sait que, en tout cas, objectivement, dire que les classes populaires sont disparues, c'est faux. Quoi. Voilà. C'est-à-dire à s'en tenir aux critères d'objectivation ordinaire qui sont ceux de l'INSEE en France, voilà, de l'Institut national des statistiques. Bon. Les CSP de l'INSEE, bon, alors c'est vrai qu'il y a une régression du nombre d'ouvriers ou de la part des ouvriers dans la population active. Hein, elle atteint à peu près son sommet à la fin des années 70, grosso modo, et puis depuis elle est en déclin, mais enfin bon. Il en reste quand même pas mal, quoi. C'est quand même autour de 23-24% encore aujourd'hui de la population active, sans compter donc les ouvriers en retraite, par exemple. Donc, si on ajoutait cela, ça en fera encore beaucoup plus. Donc bon, voilà, pour les ouvriers, ça fait pas tout à fait rien. Et puis, bon, par ailleurs, il y a la montée considérable des employés, de la catégorie de la CSP employée, qui représente à peu près 29% à l'heure actuelle de la population active, ce qui nous fait encore en total quelque chose comme 52%, quoi, à peu près, hein, aujourd'hui. Alors, on dirait, pourquoi s'autoriser cette addition ouvriers-employés? Je pense qu'elle n'est pas du tout illégitime. Hein. Je pense que, bon, même si c'est un univers compliqué, le monde des employés, mais enfin, pour la plupart, quand même, sous bien des rapports, ils ont leurs conditions de travail, d'emploi, de salaire, hein, etc. Bon, sont tout à fait du même type, hein, que ça ressemble énormément. Quoi. Vous voyez, bon, entre une caissière dans une grande surface, par exemple, voilà, est-ce qu'elle fait un boulot tellement différent d'une ouvrière à la chaîne qui emballe des ours en peluche, quoi. Bon, ça ressemble vraiment énormément. On voit bien l'arbitraire, hein, des classements et des catégories, parce que la caissière sera classée employée de commerce, hein, et celle qui emballe les ours en peluche, ce sera ouvrière à la chaîne. Bon, voilà. Donc, bon, j'ai dit celle parce que les femmes sont massivement, c'est massivement des femmes, hein, les employés eux, en question. Bon, c'est massivement des femmes avec donc des conditions qui tendent à s'aligner de plus en plus sur celle des ouvriers, d'autant plus encore que ce genre de comptabilité statistique compte des individus, alors qu'en fait, peut-être l'unité plus pertinente, ce serait des ménages, et le nombre de ménages ouvriers-employés, par exemple, est très élevé. Quoi. Par exemple, vous voyez, c'est des unités voilà, qui sont du même type socialement, quoi, hein, qui forment des unités sociales regroupées. Bref, voilà. On a donc des catégories populaires, voilà, en y incluant les ouvriers et les employés, qui sont quand même très largement, qui restent tout à fait majoritaires dans la population active aujourd'hui. Or, tout se passe comme s'ils étaient disparus. Donc, je crois qu'on peut dire ça. Voilà. Il suffit de, enfin, je sais pas, de lire le journal, quoi, de parler dans les médias. Quand est-ce qu'on en parle ? Pas très souvent, quoi. Vraiment très, tout à fait rarement. Donc, on peut demander.
Je me permets. Oui, je vous en prie. Est-ce qu'on n'a pas remplacé justement ces prolétaires par la classe moyenne ? En fait, est-ce que le terme classe moyenne,
oui, bien sûr,
n'est pas arrivé justement pour avoir un terme en chassant un autre et
oui, bien sûr,
désignant toujours les mêmes personnes.
Oui,
finalement.
bien sûr, tout à fait. Hein. Oui, classe moyenne, c'est devenu un espèce de synonyme. Voilà, un espèce de synonyme, mais voilà, un espèce d'euphémisation, en quelque sorte. On ne va plus dire populaire, on va dire moyen, quoi. Bon, hein, ça n'y cache pas grand-chose. Bon, évidemment, tout le monde préfère se reconnaître. Quand on demande, d'ailleurs, il y a des enquêtes de ce type-là, quand on demande aux gens hein, dans quel groupe social ils se reconnaissent, on s'aperçoit que l'immense majorité des ouvriers se définissent comme classe moyenne, hein, comme ressortissant des classes moyennes. On préfère, bon, vous voyez, c'est comme si on demandait à des élèves dans une classe s'ils sont bons, mauvais, moyens, quoi. Bon, tous les mauvais vont dire qu'ils sont moyens, quoi. Bon, voilà. Hein, je crois, bon, voilà. Et ceux d'en haut qui veulent pas la ramener vont dire qu'ils sont moyens aussi, quoi. Bon, voilà, ça fait que finalement tout le monde peut se retrouver moyen. Et l'idée de classe moyenne envahissante sera théorisée, puis c'est toujours théorisable. Il y a des sociologues pour le faire. Il y en a un célèbre qui s'appelait Henri Bindras, voilà, qui a théorisé en France hein, l'idée de la moyennisation, c'est-à-dire qu'au fond, l'idée que la société française serait composée d'une, mais pas seulement française, serait composée d'une très très vaste classe moyenne avec un bout les malheureux exclus, hein, et puis à l'autre bout, voilà, des élites peu nombreuses, très privilégiées, quoi, voilà, mais avec voilà, une très très vaste classe moyenne. C'est un des schèmes d'ailleurs, hein, ouais, quand je parlais de la contribution propre des sociologues à la lutte pour imposer la vision dominante du monde social, ben voilà, je suis en train d'en parler. Voilà. Par exemple, Henri Bindras a été un de ceux qui a produit en France, ouais, une espèce de truc qui s'est bien vendu, en particulier aux politiques. Hein. Vous êtes trop jeune, mais Giscard d'Estaing, par exemple, le président Giscard d'Estaing vendait ça. Ouais. Il vendait une France moyenne. Voilà. Il vendait du Bindras. Bon, en le sachant, d'ailleurs. Hein. Bon, voilà. Donc, voilà. Alors, il y en a eu d'autres, d'autres types de vision du monde social vendu par d'autres. Je ne sais pas, Alain Touraine, par exemple, voilà, a dit à un moment, c'était au début des années 80, en fait, aujourd'hui, il y a les in et les out. Voilà. Alors, donc, voilà, c'était, il y a les exclus, out, et puis tous ceux qui sont dedans, à l'autre. Voilà, c'était une vision révisée de Bindras, voilà, mais, qui s'est bien vendue aussi pendant un certain temps. Il n'y avait plus que bon, des exclus, donc malheur aux exclus, quoi. Bon, et puis il y a tous les autres pour qui tout va bien. Ouais, ils sont dedans, en tout cas. Bon. C'est un peu simpliste et rudimentaire quand même, mais enfin bon, c'est pas les idées les plus compliquées qui se vendent le mieux, quoi. Bon, c'est sûr, vaut mieux faire simple, quoi, pour avoir quelque chance d'être entendu. Voilà, mais enfin bon, c'est un peu rudimentaire, mais bon, ou bien. Aujourd'hui, on vend de plus en plus l'idée de nous sommes tous des individus, quoi. Il n'y a plus de groupes sociaux. Enfin, l'idée même de groupes sociaux est dissoute. Voilà, et on renvoie chacun à être un individu. Hein, il est une personne, quoi. Bon, donc on ressuscite un vieux texte de Norbert Elias, qui s'appelait La société des individus. Alors, bon, c'est toujours vendable, ça, parce que c'est même pas faux, évidemment. Bon, voilà, ça va de soi. Oui, nous sommes tous des individus, quoi. Bon, oui, qui est contre? Personne. Bon, voilà. Pour autant. Bon, ça semble être une vie. C'est aussi, vous voyez, l'idée de dissoudre même l'idée même de groupe social ou d'appartenance collective, c'est aussi imposer, là encore, une vision du monde social contre une autre. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, dans ces luttes symboliques qui font que voilà, dans l'éclipse des classes populaires, il y a ça. Bien sûr, il y a la contribution propre des sociologues voilà, ou des luttes entre sociologues pour imposer des visions qui portent à, finalement, récuser toute idée de classe sociale. Classe sociale, ça fait marxiste. Hein. Bon, voilà, c'est aussi ça, c'est pas bien, quoi. Bon, hein. Voilà, c'est devenu... Alors ça, j'ai à revenir, c'est un autre aspect qui me semble important pour comprendre cette éclipse, cette invisibilité des classes populaires. Alors, il y a d'une part sans doute des causes économiques essentielles. Il y a quand même depuis le tournant justement des années 70, des années 80, un chômage de masse qui n'a pas qui n'a plus jamais régressé réellement depuis longtemps, une précarisation considérable de ces emplois, ouvriers employés, ce qui implique, c'est facile à comprendre, un déclin. Des luttes sociales. Hein. Bon, ces luttes sociales qui se sont étendues tout au long de la décennie 70. Il y a un historien intéressant, un jeune historien, Xavier Vigna, qui a écrit un livre sur les luttes ouvrières des années 68. Alors, il dit les années 68, parce qu'il dit ça commence bien avant, en fait, hein, puis ça dure bien après, quoi, jusqu'à peu près la fin des années 70. Ça commence au début des années 60, en fait, s'il appelle les années 68. Il y a des périodes d'intenses luttes sociales et qui commencent à décliner, qui se retournent, grosso modo, au tournant des années du début des années 80. Alors, je crois que ça s'explique beaucoup, bon, à travers ce que je viens de dire, là, chômage de masse, précarisation, puis, bon, bien sûr, aussi les stratégies managériales qui se sont mises en place à cette époque-là, hein, qui se mettent en place, c'est pas en un jour, bien sûr, c'est pas un basculement comme ça, mais c'est très important. Par exemple, on a systématiquement détruit toutes les grandes concentrations ouvrières, par exemple, ont été détruites. Hein, on a mis en place des stratégies de sous-traitance, par exemple, qui font des petites unités, quoi, plus de grandes unités de production, c'est terminé. Voilà. Et puis, bien sûr, aussi le chantage permanent aux délocalisations. Alors, on voit bien ça aujourd'hui. Ah, vous n'êtes pas content, je m'en vais. Quoi. Bon, bien sûr, c'est désarmant, quoi, si je veux dire, au sens propre. Bon, voilà. Donc, une deuxième raison qui est proprement économique. Et puis, il y en a une autre qui est à la fois une autre raison encore de cette éclipse, qui est à la fois politique et syndicale, je crois. C'est que les porte-paroles hein, traditionnelles des classes populaires, le PC et la CGT, sont chacun sait, effondrés. Quoi. Bon, voilà, elles sont tombées d'un étiage pour le PC autour de 20% des suffrages, grosso modo, à aujourd'hui, pas grand-chose. Bon, alors ça a à voir avec bien des choses, je pense, avec l'effondrement, bien sûr, du socialisme réel, du socialisme réellement existant. Bon, la chute du mur, 89, bon, voilà, c'est sans doute une raison importante, ça a à voir avec l'entreprise. Dans ces luttes symboliques dont je parlais tout à l'heure, j'évoquais le déclin du marxisme. Moi, je suis arrivé dans les sciences sociales à une époque où c'était vraiment très chic hein, d'être marxiste. À la fin des années 60, c'était un must philosophique. C'est un must dans les sciences sociales. Quoi. Je veux dire, c'était l'époque où Althusser était caïman à l'école normale supérieure. Bon, et le marxisme structuraliste révisé Althusser, c'était le comble du chic. À cette époque-là, hein, chez les anthropologues, chez les sociologues, chez les ethnologues, enfin bon, voilà, c'était vraiment, vous voyez, une espèce de must intellectuel. Bon, tout ça s'est effondré, le cours, en tout cas, hein, de la pensée marxiste, le cours des Althusseriens s'est effondré très vite, d'ailleurs, de façon tout à fait stupéfiante, en fait, dans la moitié des années 70, donc vous voyez, une espèce d'effondrement, comme ça, du cours d'une pensée sont critiquables, mais enfin bon, expliquer cet effondrement, c'est paradoxal, c'est absurde, même de toute façon. Voilà. Et puis, bon, il faudrait expliquer aussi, toujours pour comprendre cet effondrement, cette éclipse de classe populaire aussi. Je parlais de lexique managérial. Je pense que il faudrait voir, comment ce lexique managérial s'est imposé dans l'univers médiatique. C'est important parce que c'est eux qui produisent la nouvelle langue. Quoi. Donc, on a appris à parler une nouvelle langue. Et finalement, ce qui était le lexique indigène des classes populaires a été totalement remplacé par un lexique managérial. C'est très important, ça. Vous voyez, on ne dit pas une grève, on dit un mouvement social, on ne dit pas, tout le vocabulaire, je n'ai pas l'esprit là tout de suite, mais enfin, bon, on ne dit pas licenciement, on dit plan social, quoi. Enfin, vous voyez, tous les mots ont été changés, quoi. Bon, voilà. Je pense que ce n'est pas ça l'important. Vous voyez, imposer de nouveaux mots à la place des anciens, c'est aussi faire que la tribu, quand elle perd son lexique, quand elle perd son. Elle est désorganisée, quoi. Vous voyez, les colonialistes savent bien ça. Bon, imposer une nouvelle langue à ceux qu'on entend dominer, c'est un truc tout à fait essentiel. Ben là, je pense qu'on pourrait montrer ça, comment le lexique indigène de la tribu s'est perdu. Et à travers lui, c'est aussi une vision du monde qui est liée à ce vocabulaire à travers lequel on essaye de dire les choses. Quoi. Vous voyez, quand on perd les mots, on perd aussi la vision qui allait avec, on perd aussi ce qui faisait la cohésion du groupe, c'est-à-dire ce langage partagé, et donc aussi cette vision partagée. Voilà. C'est tout ça, je crois, hein, qui a à voir, je crois, avec cette éclipse de classe populaire. À ça, bon, il faudrait ajouter d'autres luttes qui ont visé, même si ce n'était pas leur objectif explicite, mais qui de fait ont contribué à une espèce de travail de division au sein des classes populaires. Alors ça, je pense que c'est un autre aspect aussi tout à fait important. Alors d'une part, il y a la mise en avant de façon beaucoup plus générique, d'ailleurs, qui ne vise pas seulement les classes populaires, mais grosso modo, qui concerne là encore de nouveau la vision du monde social en général. Hein. Ça a été la substitution qui s'est faite aussi, la substitution d'un clivage à un autre. C'est-à-dire que là où, avec la pensée marxiste et ce qui allait avec, les clivages de classe occupaient une place tout à fait essentielle, centrale pour la compréhension, la vision qu'on avait du monde social, on a multiplié des clivages perpendiculaires aux classes sociales. Hein. On a dit, voilà, on a... Alors, Pas indu, hein, je ne m'élève pas contre ça, mais je le constate. C'est de fait, on a dit, voilà, on a exhibé, en fait, au cours des années 70, tout un ensemble de clivages avec des critères d'allure naturelle. Voilà, là encore, hein, homme-femme, commencez par ça. Voilà, homme-femme, donc voilà, un nouveau clivage qui traverse le monde social, les hommes et les femmes, les clivages d'âge, de génération, voilà, hein, c'est bon. Des clivages de race, c'est nouveau ça en France. Hein. On a re-exhibé de nouveau des clivages raciaux, etc., ou homo-hétéro. Bon, enfin bref, on a inventé comme ça, on a mis en avant en quelque sorte hein, tout un ensemble de clivages qui ont la singularité d'être tous des clivages perpendiculaires qui traversent en quelque sorte hein, les différentes classes sociales. Bon, et donc faire prévaloir ces clivages, je ne dis pas, je me prononce pas sur tort ou à raison, c'est pas ce que j'entends, mais en tout cas, vous voyez, c'est aussi contribuer à défaire en quelque sorte, vous voyez, des groupes parce qu'on a fabriqué des nouveaux qui traversent ces groupes en question. Bien. Et alors plus spécifiquement, je crois que en ce qui concerne les classes populaires, il y a eu une espèce de, enfin, tout un travail politique, symbolique à la fois, qui s'est mis en place, qui produit de fait un clivage qui me semble essentiel entre, parce qu'il est toujours présent aujourd'hui, qu'il est devenu dominant, un clivage entre ce que Elias et Scottson, dans un ouvrage assez célèbre de sociologie, appelaient le clivage entre les établis et les outsiders. Established outsiders, souvent. Je crois que ce clivage qu'il a dans une enquête ancienne en Angleterre est devenu, je crois, bon, un clivage tout à fait central au sein des classes populaires, tout à fait central dans la mesure où il recouvre plusieurs clivages plus ou moins homologues à celui-là, hein, entre les établis et les marginaux, c'est aussi les Français et les immigrés, c'est aussi les Blancs et les colorés, vous voyez, alors c'est pas exactement superposable, mais grosso modo, ça se recouvre. Voilà. Alors, comment ce clivage s'est mis en place, ce clivage qui est à la fois social et spatial, d'ailleurs. Hein, bon, tout le monde connaît ça maintenant, les cités dont on parle, c'est les quartiers en difficulté, machin, ils sont ailleurs, quoi. Hein, voyez, ils sont spatialement séparés aussi. Puis, il y a des séparations redondantes, quoi. Vous voyez, c'est la question spatiale, mais aussi raciale, mais aussi bon, voilà, professionnelle, hein, etc. Bon, je pense que ce clivage s'est mis en place. Comment dire, pour deux raisons assez faciles à comprendre, je crois. La première est que, j'ai évoqué rapidement les transformations qui affectaient les classes populaires. Ces transformations, chômage de masse, précarisation, etc., elles ont touché en priorité les immigrés, les derniers arrivés, quoi, grosso modo, hein, qui étaient les premiers licenciés, voilà, etc. Donc, des familles qui se sont retrouvées rapidement paupérisées. Bon, ces familles paupérisées, regroupées, dans ces quartiers en difficulté, etc., elles sont deux choses. Quoi. Elles peuvent être caractérisées facilement par deux caractères. En tout cas, les journalistes n'ont pas manqué de le faire très très vite. La première, c'est de dire que ces classes laborieuses, dangereuses, précarisées, sont génératrices, sont aussi des classes dangereuses, c'est-à-dire productrices de délinquance, voilà, hein, du problème dit de l'insécurité, dont on nous rabat les oreilles depuis 30 ans. Maintenant, alors ça, j'ai passé pas mal d'années, moi, à travailler sur ce petit monde, que je connais un peu. Donc, voilà, alors, c'est pas faux, hein, je dis pas que ça produit pas la pauvreté, c'est pas une nouveauté, produit de la délinquance, bon. C'est un peu vite dit comme ça, mais c'est pas faux. Quoi. Bon, je pourrais développer hein, longuement si nécessaire, mais je crois que c'est en gros c'est essentiel. L'autre aspect, c'est que qu'on peut mettre en avant aussi, c'est que ces familles paupérisées sont celles qui ont le plus recours à différentes formes d'aide publique. Hein. Bon, alors c'est le thème des assistés. Vous voyez venir, hein, le deuxième thème, insécurité, assistée. Quoi, bon. Voilà. Et avec ça, bon, on crée, ou en tout cas en vous rabattant les oreilles avec ces histoires-là, on crée, je crois, de la division, ouais, une division de plus en plus profonde au sein des classes populaires, entre ces deux pôles, ces deux univers, ce qu'on pourrait appeler les ouvriers pavillonnaires, hein, à un bout, ceux qui ont réussi, qui ont quitté d'ailleurs, hein, ces zones urbaines sensibles, qui sont c'est le sauf qui peut. Tous ceux qui peuvent s'en vont, ils vont s'installer dans le pavillon à côté. Bon. Et puis les autres, bah, ceux qui restent, c'est ceux qui peuvent pas partir, quoi, grosso modo. Hein. Donc c'est, voilà, on pourrait dire que cette opposition, elle est entre, pour faire simple, l'ouvrier pavillonnaire et ses ouvriers de cité, ceux qui sont restés là-dedans. Bon. Et la.
Comment dire, quand on parle des banlieues, on ne parle que des cités.
Oui, c'est
pas
de banlieue
pavillonnaire. Enfin,
oui, jamais. Non, c'est pas de ça. On parle, bien sûr, les médias, on parle des tours, des bars. Il n'y en a plus, d'ailleurs. Moins en moins, en tout cas, parce qu'on les a cassés. Voilà. Mais voilà, c'est de ça dont on parle. Quoi. On parle de ce pôle-là, des classes populaires, qu'on met en évidence et qu'on caractérise à travers ces deux choses dont je viens de parler, je crois. Hein. Non, plus trois, parce que c'est aussi l'islam des banlieues, machin, etc. Aussi. Bon. Voilà, c'est, on trouvait des caractères pour focaliser l'attention sur ce petit monde-là. Bon. Et l'extrême droite française, le Front National, pour ne pas le nommer, aujourd'hui, bah, vit de ça. Quoi. Bon, enfin, il vit beaucoup de ça, pas seulement, mais enfin, c'est deux thèmes tout à fait essentiels, hein, l'insécurité d'une part, le racisme sous différentes formes, et puis l'assistanat. Quoi. Bon, voilà, c'est trois trucs, c'est, comment dire, renforcer, attiser constamment le clivage au sein des classes populaires. Voilà. Et quand il y a un événement comme. Les émeutes de novembre 2005 auxquelles je m'étais intéressé, ben voilà, il y a tout ça qui est prêt à ressurgir, et hop, voilà, on se jette là-dessus, et on travaille, en ce sens-là, je vous disais, on travaille à produire, hein, c'est-à-dire, en tout cas, ouais, on fait rien pour réduire, en tout cas, voilà, on peut au moins dire ça, quoi, voilà.
Ce que je sur ces dire émeutes, d'ailleurs, vous les qualifiez de proto-politiques,
hein. Oui.
Qu'est-ce que... Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ça
proto-politique.
Cette idée de proto-politique.
Mais cette fois-là, je n'avais pas résisté au mot savant, parce que je n'ai vraiment rien trouvé de mieux. Je ne savais pas comment, je n'avais pas dire l'émeute de novembre 2005. Bon, bah, bien, je dise quelque chose, quand même, j'ai l'air de dire quelque chose, en tout cas. Donc, avoir un point de vue sûr. Bon, alors, je n'ai pas trouvé mieux pour exprimer mon point de vue que ça, proto-politique. Hein. Ce n'est pas pour faire le malin, là encore, mais parce que je n'ai pas trouvé mieux. Quoi. Bon. Alors, ça, pourquoi j'ai appelé ça proto-politique? En fait, parce que d'abord, il m'a semblé que l'objet central du débat, à la fois dans le monde politique et dans le monde des sciences sociales, était l'attribution ou non d'un label politique à ces émeutes, ou à cette espèce d'émeute. Déjà, émeute, c'était un mot que certains récusaient. Ils ne voulaient pas qu'on appelle ça émeute. Il fallait trouver ce que vous voulez, mais pas ça. Quoi. Non, donc, voilà. Donc, il m'a semblé que voilà, l'enjeu essentiel était ça, quoi. Voilà, qualifier, attribuer le label politique, c'est une révolte de type politique, ou bien c'est des délinquants, des droits communs, nanana, etc. Et qui, bon, voilà. Quoi penser par rapport à ça appeler ça politique, moi j'avais du mal, quoi, bon, à proprement parler, et pour autant dire c'est des gestes délinquants, point barre, ça me semblait tout aussi stupide, quoi. Bon, alors, il fallait trouver à quoi ça ressemblait le plus. Alors. À mon avis, il m'a semblé que c'est une idée que je connaissais un peu pour y avoir enquêté pendant longtemps, entre 75 et 80, puis entre 2000 et 2005, quoi, grosso modo. J'ai passé 10 ans de ma vie à enquêter auprès de ce petit monde. Il me semblait que ce à quoi ça ressemblait le plus, c'était finalement des trucs très très anciens. Ce que ça m'a évoqué, moi, directement les travaux des historiens, en fait, du 18e siècle, quoi, ou du 17e, ou même du 16e siècle. C'est-à-dire ces révoltes paysannes, comme ça... colère subite, comme ça, très violente, très, très dure, comme ça, et puis, mais voilà, sans qu'il y ait, sans qu'il y ait vraiment de mots d'ordre, de porte-parole, de choses mises en avant, ce qui était frappant chez les émeutiers, qui a frappé tous les journalistes et les sociologues aussi, hein, c'était le silence des émeutiers, il n'y avait pas de revendications, il n'y avait pas de porte-parole, pas de leader, pas d'organisation, et on se trouvait dans un répertoire d'action, pour parler comme Charles Tilly, qui était un répertoire d'actions de type proto-politique, hein, les révoltes un peu dures, physiques, bon, l'affrontement physique, mais voilà, sans phrases, sans mots. Alors, c'est pour ça
que proto. C'est d'ailleurs en Angleterre il y a,
voilà,
y a deux ans.
Aussi, hein, voilà, de nouveau en Angleterre, hein. Il n'y a pas si longtemps. Voilà, alors proto-politique, c'était d'abord pour ça, parce que ça, proto, ça veut dire ancien en grec, hein, bon, voilà, c'est des. Politique à l'ancienne, quoi, politique à la manière des révoltes populaires de l'Ancien Régime, voilà, c'est ce à quoi ça me faisait penser le plus directement. Et puis aussi, pourrait-on dire, parce qu'au fond, Je crois que ça n'exprimait rien d'autre que finalement une espèce d'indignation morale. Voilà, je pense que ce qui est central, il n'y avait pas grand-chose de plus à comprendre, en tout cas dans l'immédiat, c'est une forme d'indignation morale. C'est comment d'ailleurs, c'est de façon récurrente, hein, ce qu'on appelle violence urbaine dans le lexique policier ou dans le lexique des journalistes, c'est toujours la même histoire. Hein, le scénario de ce qu'on appelle émeute, quoi, c'est en général plus restreint, ça ne s'étend pas à tout le territoire comme en 2005, mais c'est toujours ça, quoi, c'est toujours une bavure policière, quoi. Voilà, c'est toujours la même histoire, quoi. C'est un jeune qui se fait tuer, on ne sait pas pourquoi. Voilà, il n'a rien fait de spécial, mais il n'a pas eu de chance, quoi. Voilà. Il n'a pas eu de chance. Voilà. Et donc c'est cette forme d'indignation morale, voilà, qui me semble être motrice, en tout cas, de chacun de ces soulèvements et de celui-là comme des autres, quoi. Après tout, les deux jeunes qui se sont fait enfermer, enfin en quelque sorte, par les policiers dans un transformateur de l'EDF à très très haut risque, c'était de fait, bon, voilà, pas sinon un assassinat délibéré, en tout cas, bon. Voilà, quoi. Ils n'ont pas fait grand-chose pour l'empêcher, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Bon, donc je crois que c'est rien d'autre que ce qu'un historien anglais que j'aime bien, E.P. Thompson, appelle les économies morales, bon, qui permettent de comprendre, je crois, hein, ce type-là de colère. Alors, Thompson, c'est à propos des révoltes des paysans du XVIIe siècle. Mais c'est de ce type-là, quoi. C'est au fond... Voilà, ils sont confrontés à une chose qui leur semble moralement inqualifiable. Voilà, et donc c'est un réflexe finalement d'indignation morale et qui s'exprime comme il peut. Et c'est en ce sens-là aussi qu'on peut dire proto-politique. C'est-à-dire qu'au fond, je pense que beaucoup de mouvements sociaux, de mouvements populaires en tout cas, on trouve leur principe dans une forme d'indignation morale parce qu'on trouve ça intolérable. Voilà, transgresser un espèce de contrat implicite, un contrat moral implicite qui se trouve transgressé de façon absolument injustifiable. Donc, et voilà, qui est au principe d'une colère qui s'exprime avec les moyens du bord. Les moyens du bord sont, à vrai dire, à peu près toujours les mêmes, sauf à être politiquement organisé, c'est-à-dire être capable de faire des tracts, des banderoles, etc. Mais enfin, où sont, voilà, pour faire des tracts, des banderoles, des discours à la télé, etc., faut être organisé, faut avoir des porte-paroles, etc. Et bon, voilà. La structure politique d'encadrement classique des classes populaires, le PCF, en l'occurrence en France, est transvenu ce qu'il est, c'est-à-dire plus grand-chose. Il n'y a pas, quoi. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc voilà, voilà pourquoi proto-politique, c'était une manière, je crois, de décrire aussi précisément que possible, en tout cas dans mon esprit, ce dont il s'agissait dans ce cas-là. Voilà.
Alors ça permet d'enchaîner en fait sur la question du champ politique, mmh. et notamment d'un terme qui revient souvent, qui serait la panne civique en France.
Oui.
La disparition du PCF, finalement, disparition, oui. Semi-disparition, mais qui n'est plus tout ce qu'il était. Une montée des extrêmes, et en particulier l'extrême droite, mais quand on regarde les chiffres, finalement, il n'y a pas tant de montée que ça. Il y a juste moins de gens qui votent.
Oui, c'est ça. Oui, c'est bon.
Et comment expliquer, justement, finalement, que l'abstention soit devenue le premier... Oui. Le premier parti, en quelque sorte.
Hein. Oui. Alors, je pense que oui, c'est un fait. Je me suis intéressé déjà là-dedans, puis j'ai continué, quoi, parce que ça me semble être un fait politique majeur, quoi. Bon, même si c'est pas celui qu'on met le plus en exergue, le plus en évidence, mais je crois que le fait politique majeur, c'est l'abstention, quoi. Bon, voilà, c'est une abstention de masse. Hein. C'est quand même plus de 60% d'abstentionnistes aux dernières élections européennes en France, quoi. Bon, c'est quand même beaucoup, quoi. C'est même pas un sur deux qui se déplace pour aller voter. Bon, donc je pense que voilà, il y a des travaux d'ailleurs très intéressants qui ont été faits. Il y a Jean-Yves Dormagin et Céline Braconnier qui ont écrit un très beau livre, ont fait une très belle enquête sur l'abstentionnisme dans les classes populaires. Alors, ça me semble être sans doute un phénomène majeur sur lequel on n'insiste pas assez. Alors il faut, quand on dit par exemple, les journalistes vendent l'idée que le premier parti ouvrier c'est le Front National. Bon oui, enfin ça n'est vrai que si on ne tient pas compte du fait que le premier parti ouvrier c'est l'abstention. Voilà, le parti des classes populaires c'est l'abstention, massivement, très très massivement. Voilà, donc c'est une espèce de contre-vérité, voilà, une typique. Bon, alors, on fonde l'abstention et le vote FN. Bon, c'est quand même aller un peu vite en besogne, quoi. C'est pas pareil, quoi. Bon, je dis pas que d'ailleurs tous les abstentionnistes sont des saints et n'ont rien à voir avec le Front National, je dirais pas ça non plus, hein, mais bon, quand même, quoi. On peut pas dire ça comme ça, quoi. C'est plus compliqué que ça. Alors, je pense que ça pose la question de si on constate ça, voilà, le constat qui me semble s'imposer, hein, cet abstentionnisme de masse, c'est comment en rendre compte, comment est-ce qu'on peut le comprendre. Il y a différentes façons de le comprendre, mais il y en a une qui me semble quand même importante, en tout cas à travers ce que j'ai pu comprendre moi en faisant les enquêtes que j'ai pu faire, c'est au fond la désorientation politique de ces profanes de la politique que sont en général les gens des classes populaires qui vont prends leur temps à regarder ou à écouter le poste pour savoir qu'est-ce qui se passe aux informations, ni au journal, quoi. Bon, voilà, ils savent pas grand-chose, ils voient ça de loin, quoi, en tête. Mais qui me semble, bon, un des faits donc majeurs, c'est sans doute ce que vous évoquiez, hein, c'est la débandade du PCF. C'était un électorat, voilà, qui fonctionnait beaucoup à travers ce que les politistes appellent les marques politiques, quoi. Les marques politiques dans lesquelles on se reconnaît, quoi. C'est pour moi, ça. Bon, ouais, c'est pour nous. Bon, voilà. Puis sans chercher beaucoup plus loin. Et donc, bon, voilà, quand les marques s'effondrent, bon, ça pose un léger problème. Et l'aspect de ce point de vue-là qui me semble aussi très important, c'est du côté de l'offre politique. Si on raisonne en termes de marché, c'est l'indifférenciation croissante de la droite et de la gauche de gouvernement. C'est l'idée que tous les mêmes, quoi. Bon, je vois pas la différence, quoi. Bon, je cherche les différences, mais vu de loin, en tout cas, mais même vu de près, à vrai dire, c'est pas sûr que, voilà, les différences soient tellement que ça évidentes. Hein. Au fond, comme bien dit un de mes collègues de laboratoire économiste, Frédéric Lordon, il dit aujourd'hui on a la droite décomplexée, la droite complexée, quoi, pour désigner le PS. Quoi. Bon, c'est un peu vache, mais c'est pas vraiment faux, quoi. Bon, je crois. Alors, ce qui est emmerdant, c'est que, bon, quand on dit ça, on reconnaît tout de suite un mot d'ordre du Front National, hein, avec l'UMPS, quoi. Bon, voilà, c'est le même, quoi. Bon, et ils désignent quoi? Ils désignent ça, quoi. Bon, cette espèce d'indifférenciation croissante entre la dite droite et la dite gauche. Bon, ce qui est un problème, évidemment, hein, c'est évidemment un problème de se retrouver à dire la même chose. En même temps, bon, voilà, c'est vrai ou c'est faux, quoi. Bon, et en tout cas, la perception, je crois... banal, profane en tout cas de la politique, c'est un univers dans lequel on reconnaît plus rien, quoi. Voilà, c'est une espèce de brouillage, il y a un espèce de brouillage des étiquettes politiques, dont je pense qu'il contribue très largement aussi à cet abstentionnisme d'autant plus grand que on ne sait même pas pour qui on pourrait aller voter parce qu'on n'y comprend rien, quoi. Bon, voilà, on se dit où c'est. Oui.
Est-ce que la notion de vote utile, qui est apparue plutôt récemment d'ailleurs, ne vient pas rajouter encore plus au brouillage?
Oui.
C'est-à-dire que finalement, votre voix ne vaut rien si elle ne va pas à un des deux partis les plus importants.
Bien sûr, effectivement. Puis il y a la tactique, hein, la tactique politique au sein des professionnels de la politique, au sein du champ politique, avec la montée du Front National qui, d'une certaine façon, permet ça, ouvre la porte à ça. Au fond, c'est quel programme on a à vendre, sinon faire barrage au FN, quoi. Bon, voilà, c'est une espèce de programme minimal qui se comprend, qui se justifie. Moi, je sais pas, j'ai participé à ça, moi. Je suis allé voter pour Chirac, moi. Je ne voyais pas quoi faire d'autre, quoi. Bon, voilà, ça me semblait effectivement nécessaire et utile. Donc, il y a aussi, ça fait partie du jeu politique maintenant. C'est intégré, je crois, dans le jeu des professionnels de la politique, le vote utile, quoi. C'est-à-dire d'avoir comme programme ce voter utile, quoi. Bon, voilà. Hein, c'est tout. Voilà, pas un mot de plus. Bon, ça atterrit. Alors, ça autorise aussi, bon, des tas de jeux compliqués dont j'essaye de parler un petit peu. Il y a le coup des extrêmes aussi. Bon, voilà. Il y a les extrêmes. Bon.
Ça fait toujours le jeu des extrêmes.
Aussi, voilà, ça fait le jeu des extrêmes, quoi. Ou les populismes. Populisme, c'est un espèce de mot, voilà, c'est un espèce de concept recyclé, quoi. Bon, c'est un vieux concept de politique, hein, mais qui date du 19e siècle, importé plutôt d'Amérique latine ou bien aussi de la Russie d'avant les soviets. Bon, enfin bref, il y a une longue histoire de ce concept, mais qui a été recyclé, redevenu un concept à la mode, quoi. Bon, voilà, tout très fréquemment utilisé aujourd'hui pour justement désigner tout à la fois ce que moi j'appelle une gauche de gauche, c'est ce qu'on appelle une extrême gauche, et l'extrême droite, quoi, et le Front National. Alors, je pense que bon, voilà, c'est là aussi, je crois, rien d'autre que, de fait, une entreprise de brouillage savant, voilà, une entreprise de brouillage savant qui neutralise, en quelque sorte, la possibilité que d'une restructuration, d'une recomposition du champ politique tel qu'il est aujourd'hui. Alors, gauche de gauche, peut-être un mot. Pourquoi j'ai employé ça ?
Vous commencez le livre là-dessus.
Voilà, je commence là-dessus. Oui, alors, un mot là-dessus. En fait, alors, j'ai repris ce vocabulaire parce que ça me semblait... Alors, c'était un article, en fait, que j'avais co-signé avec Bourdieu et quelques autres. Il y a longtemps, c'était à la fin des années 90. C'était un article dans le Monde qui s'appelait « Pour une gauche de gauche », voilà, qui, grosso modo, disait ce que je disais là, quoi. Grosso modo, c'était pas l'idée. L'idée était de rappeler la gauche à ce que l'était traditionnellement la gauche, quoi. Voilà. Bon, c'était rien de plus que ça, pas davantage que ça, mais c'était au fond cette idée-là. L'idée était que dans ce champ politique, l'indifférenciation croissante entre la droite de gouvernement et la gauche de gouvernement appelait à ce qu'on reconstitue une gauche qui soit une gauche et dans laquelle il soit possible pour des gens de gauche de se reconnaître. Donc, Voilà, j'ai repris ce terme-là parce que je n'ai pas trouvé mieux après tout. L'idée, en tout cas, c'est la défense d'une ligne politique qui est en gros la mienne, mais pas seulement la mienne, quoi, celle qui avait impulsé Bourdieu et que j'ai repris à mon compte avec d'autres, qui était voilà, pour une gauche de gauche, voilà, et pas une gauche de la gauche, parce qu'on dit ça aujourd'hui. Voilà, on n'arrête pas de dire, les journalistes ne disent jamais gauche de gauche, hein, ils disent toujours la gauche de la gauche, quoi, bon, parce qu'il faut que le PS reste la gauche. Quoi. Le problème, c'est que bon, ils sont les seuls à le croire, quoi. Bon, voilà, quoi. En tout cas, il y a beaucoup moins de monde qui le croit. Donc, voilà. Donc, imposer l'idée d'une gauche de gauche, évidemment, vous voyez bien la démarcation, le jeu de distinction, mais évidemment, il est très, très, très difficile de le faire passer, de le faire entendre, quoi.
Oui, parce que, outre toujours ce problème, en fait, de s'adresser directement à des personnes qui sont convaincues du bien fondé d'une bien telle opération. Mais il y a aussi le problème du rassemblement, en fait, des différentes gauches, puisqu'il y a, en termes de gauche de gauche, c'est même plutôt des gauches au pluriel, de gauche au singulier. On l'a vu notamment avec le traité européen de 2005. Finalement, le nom n'était pas un nom homogène. Et puis, il y avait même d'ailleurs des noms de droite.
Bien sûr.
Les prismes. Et puis même cette émeute de 2005, finalement, qui est une émeute donc proto-politique, qui est une révolte, mais qui est irrécupérable politiquement, même si, évidemment, les enjeux qu'elle évoquait pouvaient être rattachés à justement cette gauche de gauche aussi, d'une certaine manière.
Oui. Et je crois qu'effectivement, c'est une des difficultés majeures, quoi. Là, c'est une difficulté qui est à la fois analytique, hein, pour quelqu'un qui essaye de comprendre, quoi. Bon, voilà, qu'est-ce qui... les formes de lutte sociale qui se sont développées en France ou qui pourraient se développer en France dans la société française d'aujourd'hui, et d'une part, et d'autre part, comment il est possible, ou en tout cas, on pourrait tenter de reconstruire une gauche de gauche. Comment il serait possible de revoir. Quand on fait ça, bon, c'est parce que c'est une tâche effectivement très très compliquée, parce que, comme vous l'évoquiez, bon, à la fois dans le champ politique, alors on a une myriade de groupuscules ou de petits groupes, avec chacun leur chapelle, bon, avec leur logique de boutique, qui s'essayent comme ils peuvent de défendre dans la tradition, et puis bon, voilà, donc c'est des obstacles considérables qui sont à la fois des obstacles organisationnels, mais pas seulement, c'est aussi des obstacles conceptuels de pensée, de reconstituer finalement une ligne susceptible d'être où chacun puisse se reconnaître et qui soit intelligible, voilà, par tout le monde. C'est un des défis majeurs, je crois, de notre époque. Hein. Je crois que bon, voilà, c'est ce que les gens autour du front de gauche. Hein, essayent de faire comme ils peuvent, quoi. Bon, avec des succès divers, c'est moins qu'on puisse dire. Bon, c'est pas toujours triomphal, c'est moins qu'on puisse dire, mais je crois que c'est le problème, effectivement, auquel, voilà, dans le champ politique, les gens qui se retrouvent ou qui se reconnaissent plus ou moins dans le front gauche se trouvent confrontés, quoi. C'est essayer de construire une ligne unifiée, capable de rassembler tous ces porte-paroles éclatés. C'est possible qu'il y ait de s'élargir, en particulier du côté des Verts et de l'écologie. C'est, il me semble, être un enjeu sans doute tout à fait central aujourd'hui, quoi, que, voilà, de repenser quelque chose comme une gauche de gauche aujourd'hui. Je pense qu'elle ne peut pas méconnaître aujourd'hui les problèmes environnementaux pour faire vite, mais qui me semble être une question tout à fait centrale. Voilà, je pense que ça fait partie, je crois, des difficultés qui sont, donc, d'une part, oui, voilà, les problèmes posés à l'intérieur même du champ politique, mais aussi, je crois, de façon plus générale, comment penser une vision du monde social qui serait un peu convaincante, quoi. Bon, voilà, y compris pour des sociologues, je pense que c'est très très compliqué. Voilà, je pense que ce que j'ai évoqué tout à l'heure rapidement, bon, c'est finalement où est un tableau un tant soit peu intelligible de la composition du monde social tel qu'il est aujourd'hui. Je pense que c'est une tâche vraiment tout à fait difficile, quoi. Bon, comment penser le monde social, construire une espèce de cartographie dans laquelle les intéressés pourraient un minimum se reconnaître. Bon, ça va pas de soi du tout. Bon, je pense que c'est vraiment un problème compliqué, auquel avec d'autres on essaye de auquel on essaye de travailler, mais c'est rien moins que simple, je crois. Hein. Voilà, je dirais ça. Donc, c'est deux problèmes compliqués, je dirais. À la fois, on a, vous voyez, un espèce de brouillage de fait au sein du champ politique et un brouillage de fait au sein du monde social. Et donc, faire coïncider ces deux cartes elles-mêmes brouillées, je pense que c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est un enjeu, en tout cas, politique et intellectuel de première grandeur. Mais bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, bon courage, quoi. C'est pas vraiment facile, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est à la fois intellectuellement, je crois, difficile, et aussi, plus encore, pratiquement, très très difficile à faire, quoi. Et entendu d'ailleurs que c'est une vision un peu intellectualiste que je développe là, et j'ai tort, parce qu'en même temps, c'est deux mouvements qui sont forcément associés. Voilà. C'est-à-dire, je veux dire que construire des porte-paroles politiques audibles, c'est aussi construire les groupes. Ce à quoi servent des porte-paroles, c'est aussi à faire les groupes, hein, les faire exister, en tout cas comme groupes conscients d'eux-mêmes. Quoi. Bon, c'est les doter de, vous voyez, cette espèce de, le jeu politique, il y a toujours, vous voyez, un espèce de truc dialectique compliqué. Quoi. C'est-à-dire que ça suppose que les groupes sociaux, voilà, se dotent de représentants dans lesquels ils puissent se reconnaître, et en même temps, ces représentants font exister le groupe social. Vous voyez, c'est une espèce de jeu qui est un jeu compliqué. Donc, quand je sépare, vous voyez, le problème des deux cartes, voilà, une carte du monde social brouillée, compliquée, une carte du champ politique de plus en plus brouillée, compliquée, etc. Vous voyez, c'est à la fois, c'est pas deux questions séparées, c'est deux questions qui ont tout à voir entre elles, en fait. Voilà, c'est deux questions qui ont très, très certainement à voir. Voilà. Donc, mais c'est pas simple, oui, je crois.
Alors, juste pour terminer, parce que vous mettez, en fait, vous citez une phrase de Bouvresse dans votre livre qui parle justement de passer du statut de sociologue pour sociologue à celui du sociologue pour tout le monde.
Oui.
Donc, il y a quand même de sociologue pour tout le monde. Ce qui est un joli programme. D'accord. Donc, ce qui est quand même un joli programme. Oui. Vous évoquez vos différentes expériences télévisuelles. Oui. Et est-ce qu'un sociologue à la télé, c'est un sociologue pour tout le monde?
Ouais, c'est un sociologue pour les téléspectateurs, quoi, mais c'est réellement difficile, oui, c'est un vrai, bon, c'est pas facile, quoi, en tout cas, moi, l'expérience que j'ai pu en avoir, quoi, bon, c'est, comment dire, c'est difficile de la récuser, bon, quand, en tout cas, quand on est quelqu'un comme moi qui pense que, voilà, les sociologues ont quelque chose à dire, voilà, d'audible par d'autres qu'eux-mêmes sur le monde social, et que ça serait intéressant que les gens en question, de façon très large, puissent les entendre, et pas seulement les professionnels de la sociologie, quoi. Voilà. Donc on se dit que, bon, comment faire, c'est pas en publiant un article dans la Revue française de sociologie, ou bien dans avec de la recherche en sciences sociales, qu'on va se faire entendre. C'est sûr que non, qu'on va se faire entendre des sociologues. Voilà, bon, c'est un espèce de jeu dans l'entre-soi, donc voilà, c'est comment accéder à un public plus vaste. Je vois mal qu'on puisse renoncer aux médias, parce que le moyen d'accès à un public plus vaste que soi-même, c'est évidemment les médias. Mais, bon, le problème, c'est voilà, comment faire pour pouvoir... Alors, il faut pouvoir y accéder, ça ne va pas tout à fait de soi. Bon, et à supposer qu'on y ait accès, c'est arriver à se faire entendre dans ce cadre-là. Et ce n'est pas facile, quoi. Voilà, en tout cas, l'expérience que j'en ai eue, moi, c'est une expérience que... Voilà, parfois heureuse, parfois malheureuse, quoi. Bon, ça dépend des fois. Alors, il y a ce qui dépend de soi-même, quoi. On peut s'entraîner, on peut apprendre à faire des efforts, quoi. Bon, à essayer de se faire entendre. Alors, c'est jamais évident, je crois, de se faire entendre pour un sociologue, parce que on peut supposer, en tout cas, faut l'espérer, que ce qu'il a à dire est autre chose que ce qu'on entend tous les jours, quoi. Bon, c'est un petit peu différent, ou un petit peu décalé, un petit peu différent. Mais c'est toujours plus difficile de faire entendre un discours un peu décalé qu'un discours qui colle avec ce que les gens attendent, quoi. Donc, il y a une espèce de difficulté comme ça principielle, quoi. Bon, il y a une difficulté technique, langage. Quoi, c'est aussi de pas trop jargonner, quoi, mais c'est pas si facile que ça, quoi. Bon, on peut dire oui, vous m'avez fait un effort pour vous exprimer clairement, bon, d'accord, ok, mais c'est pas toujours simple, quoi. Vous voyez, je sais pas, peut-être, voilà, ce soir j'ai peut-être fait une prestation lamentable, mais voilà, quand je dis doxa ou proto-politique, voilà, on est confronté typique, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, on comprend rien, quoi. Bon, voilà, donc oui, mais c'est pas pour emmerder le monde, quoi, c'est pour essayer de dire ce que j'ai à dire, quoi, voilà, parce que j'ai pas trouvé mieux, voilà, bon, pour dire aussi précisément ce que je voulais dire. Bon, mais si vous devez commencer votre topo par une explication de vocabulaire, quoi, ben, le temps de parole a été écoulé depuis longtemps, quoi, hein. C'est à la télé, c'est comme ça, quoi. On a 3 minutes, tout compris. Bon, un coup de temps en temps, parce qu'on n'est pas tout seul. Bon, faut arriver à en placer une, c'est pas forcément évident, quoi. Bon, donc voilà, il y a une espèce de difficulté intrinsèque, je crois, à l'exercice, quoi, qui rend les choses difficiles. Alors il y a aussi le monde des médias qui est ce qu'il est, quoi, voilà, hein, l'univers des médias qui fonctionne comme il fonctionne. Alors en général, ça se passe plutôt mieux à France Culture que sur TF1, quoi. Bon, parce que je porte pas de jugement de valeur d'ailleurs forcément sur les journalistes, hein, mais c'est aussi parce que les contraintes propres de leur métier étant ce qu'elles sont. Voilà, ils fonctionnent comme ils fonctionnent, et finalement, ils attendent de vous que vous validiez le discours qu'ils tiennent tous les jours, quoi. Bon, voilà, grosso modo, c'est ça leurs attentes, hein. C'est, si vous mêlez d'aller dire le contraire de ce que tout le monde entend, c'est inaudible, quoi. Bon, voilà, la dernière fois, j'en ai fait l'expérience, c'était sur France Inter, j'ai essayé de faire ça. Alors, purée, le mec, il était fou, quoi. Il était vraiment furax, quoi. Bon, et il m'a fermé, il m'a fait taire, quoi, tout de suite, quoi. En plus, j'étais au téléphone, donc, bon, voilà, quoi. Terminé, quoi. J'ai pas réussi, quoi, tout simplement. Hein. On m'a fait taire avant que je puisse dire exactement le contraire de ce qu'il disait, quoi. Bon, mais voilà, c'était insupportable, quoi, voilà, de dire le contraire comme ça, mais pour qu'il se prend ce connard, bon, taisez-vous, quoi. Bon, voilà, on vous fait taire. Donc, il y a aussi ça, hein, c'est aussi difficile. Il y a aussi la force du nombre, aussi, où on se retrouve, là, on est tout seul contre 6 personnes, quoi, bon, avec le temps de parole divisé par 6, forcément, plus le journaliste qui en prend 4 à lui tout seul. Bon, voilà, c'est réellement difficile. Et pourtant, je crois qu'on ne peut pas dire, comme certains petits camarades le font, d'ailleurs, dire, bon, moi, j'y vais pas. Bon, voilà, je refuse d'y aller, hein, je crois, bon. Voilà. C'est réellement, voilà, une tâche difficile. Voilà, c'est faire sociologue pour tout le monde, moi, j'aimerais bien, quoi. Bon, enfin, j'essaye dans la mesure du possible, mais, voilà, il faut se rendre compte que c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. Enfin, je trouve, c'est pas tout à fait évident.
Merci, monsieur Mauger.